deux, c'est mieux, avec Luc de Doncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
On est à deux, c'est mieux, en direct du restaurant La Bouffe-Tifère, de la belle visite aujourd'hui, le conférencier Bruno Landry. Salut Bruno.
Bonjour Luc, c'est quand même une drôle d'idée de m'inviter au restaurant. Juste avant qu'on fasse une entrevue, parce qu'il a fallu...
Il a fallu que tu te dépêches.
C'est bon, en plus. C'est quoi le nom du restaurant?
La Bouffe-Tifaille.
Bouffe-Tifaille. Non seulement c'est un excellent jeu de mots, mais c'est vraiment bon. Écoute, je me régale. Des assiettes. Venez nous rejoindre, d'ailleurs.
On Qu'est-ce que tu as pris, d'ailleurs, si les gens veulent savoir ce que tu as mangé?
J'ai pris des brochettes de poulet souvlaki avec une salade grecque.
Et c'est bon.
C'est délicieux. C'est vraiment très bon. Hey, c'est le fun de voir que tout le monde s'est calmé. Et je dois dire une chose, quand je suis rentré, les gens sont mis à applaudir.
Oui.
Et quand les gens applaudissent un artiste dans un restaurant, habituellement, c'est parce qu'il est à surprise. Tu savais ça, hein?
Donc, tu as eu peur?
Un petit peu. J'ai regardé la caméra, j'ai vu des micros, par exemple.
Oui, c'est ça. Bruno, tu es conférencier depuis quelque temps. C'est arrivé un peu par accident, un peu beaucoup.
Ben, beaucoup par accident. C'est comme des gens qui font des paris, tu sais, puis qui se sentent obligés de tenir leur pari pour gagner le prix qui va avec. Je me suis retrouvé après un tournoi de golf à côté d'un président de compagnie. Okay, j'étais assis à côté, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Puis là, il commence à me parler et puis il me demande si je fais des conférences, tu sais. Puis, au moment où j'allais y dire non, pas vraiment, il m'a dit, c'est parce qu'on a un événement cet automne à Cancun. OK, là, Cancun, ça me fait perdre mes moyens, tu sais. Cancun au Mexique, là, oui. Il dit, mais toi, fais-tu des conférences? Puis je dis, ben oui, certain. Certain que je fais des conférences. Ben, il dit, envoie-moi le contenu de ta conférence par courriel cette semaine. Puis on va regarder ça. Alors, j'ai eu quelques jours, j'avais fait ça ici et là, quelques conférences, mais trouver un bon concept de conférence, j'avais mon complice, Jacques Graveline, que Luc connaît d'ailleurs, qu'on salue, même si présentement, c'est pas pour baver personne, il est en Floride, le maudit. Avec lui, on a pensé à un concept, je lui envoie quelques jours après, pas de nouvelles pendant une semaine. La semaine d'après, savez-vous quel est le courriel qu'il m'envoie? « Peux-tu me faire un prix? » Je trouve ça intéressant. « Et OK. Quand tu es rendu au prix, habituellement, c'est bon signe. » Sauf qu'on avait écrit une page pour décrire la conférence, mais une conférence, là, c'est une heure et demie. C'est pas une page. Ça voulait dire que lorsqu'il m'a retourné le courriel en disant, en me faisant une contre-offre, là, j'ai dit « OK, il paye le voyage, il paye la semaine, je travaille une journée, je suis en vacances. » Oui, d'accord, j'accepte. Un fou dans une poche.
Maintenant, écrivons une conférence.
Maintenant, le fun commence. On écrit une conférence. On a mis des mois. J'avais du temps à ce moment-là. On a mis plusieurs mois à temps plein. On a fait la conférence. Je suis allé faire ma première conférence à Cancun devant des gens du groupe Urgence Sinistre.
Gus, les franchisés,
c'était eux. C'était le président de Gus qui m'avait gossé pour que j'y aille. Et finalement, ça a super bien été. Les gens se sont levés, mais mesdames, messieurs, ce n'était pas pour partir. C'était pour m'applaudir quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hey, on a un public, il faut en profiter.
Et est-ce que dès le départ, c'était les 10 commandements? Est-ce que c'était ça, la ligne directrice de ta première conférence?
Oui, puis souvent, on me demande pourquoi j'ai appelé ça les 10 commandements. Je ne suis pas rendu preacher. Je ne suis pas rendu coach de vie. On avait juste des actions à poser au quotidien. Les 10 commandements, on avait 10 actions auxquelles on a pensé, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Les 10 doigts, les 5 doigts de la main, les péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, comment on appelle ça, cette conférence-là? Puis on avait 10 idées, on s'est dit, OK, ça va être les 10 commandements. Les gens savent que je suis un humoriste, donc ils vont se dire, on ne s'attend pas à avoir quelque chose de biblique ou de moralisateur. Puis effectivement, ça passe bien. On roule ça depuis 2 ans. La conférence à Cancun, c'était il y a 3 ans. Puis ensuite, on a signé avec le groupe Horizon. Et ça a donné lieu au livre qu'on a sorti il y a un mois, le lancement du livre « Les 10 commandements de Bruno. Je le montre aux gens.
On le voit bien à la radio.
On dirait une info merciale. Alors, comme vous pouvez voir ici, un livre dont on est très fier, qui développe les sujets qu'on a abordés dans la conférence.
Tu parles de l'idée du groupe Rock et Belles Oreilles, où, ouais. Que tu as connu à l'université. Quatre gars dont rien ne pouvait les réunir. Quatre caractères forts, quatre caractères différents aussi. Et vous avez réussi à travailler ensemble. C'est un peu la base de ça.
Je me suis dit, si je fais une conférence, il faut que je parle de choses que je connais puis que je maîtrise. Moi, je pense que j'ai un doctorat en travail d'équipe parce qu'on a réussi à bâtir quelque chose avec... OK, on est à la radio, il faut faire attention aux termes, mais je vais l'utiliser quand même, avec des têtes de cochon, des individualistes, des gens qui avaient des personnalités très fortes, des idées très affirmées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout ce monde-là a dû mettre de l'eau dans son vin. Puis je pense que c'est une belle leçon de dire, quand on s'entoure de gens qui sont différents de nous, mais qui ont des choses à nous apporter, ben ça ne peut qu'être bénéfique du côté des résultats qu'on va obtenir.
On apprend dans le livre, entre autres, que ton surnom, c'est Diplo Bruno.
Hey, là, tu vas te calmer un peu, Luc, s'il te plaît.
Parce que tu dis tout ce que tu penses,
oui.
Sans filtre. Tu l'as d'ailleurs fait avec Guy Fournier à l'ouverture de TQS. Et vous avez écrit un sketch et tu lui as dit que c'était plate.
En fait, il nous avait écrit... il est venu voir la répétition. C'était le lancement de TQS. On parle de 1986. Là. Le lancement de TQS, puis nous, on est les petits nouveaux. On a notre premier contrat à la télévision, mis à part des petites apparitions. Là. Puis Guy Fournier, le grand boss, est dans la salle, puis il regarde notre répétition, puis il dit « Excusez, les gars, mais je vous avais écrit un texte. Pourquoi vous n'avez pas fait mon texte? » Puis personne ne dit rien. Puis moi, je dis à Guy Fournier, mais vraiment pas méchamment, ni sans aucune mauvaise intention, je lui dis « on ne l'a pas pris parce qu'il était plate, ton texte. » Les autres me regardent, c'est qu'est-ce qu'il a fait là? Puis lui, il a fait « Ouais, OK. » Il a regardé notre sketch qui était, honnêtement, qui était moins plate que le texte qu'il nous avait écrit. Puis c'est pas parce que son texte était plate en soi, mais dans le contexte, pour nous, tu sais, quand tu as joint le texte d'un autre, là, ben nous, on a toujours préféré écrire nos propres textes puis les interpréter. T'sais. Mais c'est ça, le surnom Diplo Bruno, ensuite, m'a collé à la peau. Tu sais, mes amis de Rock et Belles Oreilles avaient l'habitude de dire « S'il y a une guerre mondiale possible, puis t'es envoyé comme ambassadeur, ben la guerre pogne, c'est sûr. »
Donc, est-ce que tu toi-même démarrais des conflits au sein d'RBO parce
non,
que tu disais?
Je pense pas. C'est peut-être arrivé. Mais en fait, c'est une honnêteté ou une naïveté qui fait en sorte que les gens savaient à quelle enseigne je logeais. Ils savaient ce que je pensais. Dans le fond, c'est bien plus le fun. À court terme, des fois, si tu dis « je l'aime pas ton texte », ça te fait de la peine. Mais aimes-tu mieux que quelqu'un te fasse croire qu'il aime ton texte quand il ne l'aime pas en fait, puis que tu l'apprends des semaines plus tard ou des jours plus tard? Exactement. Je veux dire, au bout du compte, c'est moi, je crois beaucoup que cette franchise-là, à long terme, est bénéfique. Mais à court terme, pas toujours.
Les trois membres ont signé la préface du livre. Est-ce que ça t'a touché?
Beaucoup. Ils sont vraiment très occupés. Puis mon livre, c'est bien le fun que Bruno fasse un livre. Mais je sais que c'est des gens qui ont des horaires de fous, de malades. Puis j'ai demandé aux trois, en espérant qu'il y en ait un des trois qui dise oui. Les trois ont dit oui. Les trois m'ont envoyé des textes tout de suite. Les trois m'ont vraiment appuyé, encouragé. ils voulaient être sûrs que le livre suscite un peu d'intérêt. Fait qu'ils ont mis leurs trois noms sur la couverture.
Ben oui!
Quasiment. Je pense qu'ils voulaient le mettre plus gros que le mien, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé.
Ça te fait quoi d'avoir un livre? T'as mis une vidéo sur le Facebook où t'étais ému quand t'as ouvert la boîte.
Écoute,
ça te fait quoi?
C'est une fierté. Puis... un livre, on a pris le temps de le travailler. On voulait pas que ce soit le livre de la conférence. On voulait que ce soit un livre qui s'autosuffit, que les gens regardent ça puis disent... parce que la conférence s'adresse beaucoup à des entreprises. C'est un milieu fermé, tu sais. Des entreprises privées, j'en ai fait plein. Là. J'en ai fait une dizaine depuis quelques semaines. Dans toutes sortes de milieux. Et puis, le livre, lui, s'adresse à tout le monde. Lui, c'est vraiment pour que les gens ils puissent aller chercher des choses pour leur vie, des conseils pratiques qui peuvent les aider.
Bruno, le livre est dédié à Jacques Graveline, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi à ton fils.
À mon fils, oui.
Pourquoi tu as voulu lui dédier ce livre-là?
Mon Dieu, parce que je dois penser à la personne qui compte le plus pour moi, puis c'est elle. C'est lui, en fait, c'est mon fils. Elle, la personne
oui, oui.
qui est mon fils, hein,
oui,
pour
oui,
qu'on comprenne tous. Oui, tout simplement.
Mais de savoir qu'il y a quelque chose qui reste. Est-ce que oui, ça prend aussi. Un autre sens de dire, ben ça reste pour mon garçon?
Aussi, puis j'étais content. Moi, j'étais fier du livre, puis il a vu la dédicace. En fait, il a fallu que j'y monte. Il était rendu en livre, oh, ça a l'air bon. Je dis, va donc à la première page. Je l'ai vu à la première page. Va donc à la première page. Là, j'en parle, il n'y a pas 13 ans, il y a 22 ans. J'en parle comme si c'était un petit enfant. Tu sais. Hey, no, wow! Non, 22 ans quand même. Et une grosse voix. Et
puis quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a vu?
Ah, il était content, il était ému.
C'est un livre qui se lit très bien, assez aéré, on peut le prendre n'importe quand. C'est bien espacé, je trouve. Puis on peut sauter les commandements, on n'est pas obligé de lire d'un coup.
Il n'y a pas un début voulu, une fin.
Est-ce que c'était voulu que ça soit comme ça?
Oui, parce qu'en gros, on a trois thèmes. On parle du travail d'équipe, on parle des réseaux sociaux, on parle du sens de l'humour. C'est les trois grands thèmes. Autour desquels s'articulent les 10 commandements. Fait que, tu sais, trois thèmes. Donc, on peut passer même d'un thème à l'autre. On peut se promener d'un thème à l'autre. On peut oser provoquer, rayonner, triompher. Provoquer, ouais, provoquer, je l'ai dit deux fois. On va provoquer deux fois. Tain.
Il y en a dix. Au total. Comment est arrivée la liste des 10 commandements?
En organisant le contenu, tu sais, par exemple, quand on parlait du sens de l'humour, oser, on dit, on va tous te donner un exemple. Dans la vie, quand on rencontre des gens, est-ce qu'on préfère avoir des gens de bonne humeur ou de mauvaise humeur devant nous? Bon, tu sais, poser la question, c'est un peu y répondre. Au travail, c'est la même chose. Je donne deux trucs dans le livre pour qu'on change la façon dont on se sent. Donc, qu'on ne soit pas la personne de mauvaise humeur que personne ne veut rencontrer. Puis, je ne demande pas aux gens d'être humoriste. Là. Être humoriste, c'est un métier. On peut appliquer la règle des 10 000 heures. Tu sais, ça prend 10 000 heures pour faire quelques...
Réussir quelque chose,
apprendre l'espagnol, apprendre à conduire une auto convenablement. Il y en a qui n'ont pas appris même après 10 000 heures. Parce que pour eux, bien conduire, c'est conduire plus vite. Et bon, je me parle un peu là, présentement. Hein? Bref, t'as des façons qui peuvent te permettre de changer la façon dont tu te sens et l'énergie que tu dégages. Puis il y a des façons pour que ton énergie devienne contagieuse. Les gens vont dire, quelle façon? OK, on fait un exercice. Veux-tu, Luc?
Vas-y.
On fait un petit exercice, puis je vais faire appel à tous les gens qui sont ici au restaurant. Premièrement, assurez-vous qu'il n'y a pas de bout de riz pogné dans vos dents. Parce que je vais vous demander de faire un sourire extrême, les gens aussi qui nous écoutent à la radio. On a besoin de 20 secondes, OK? 20 secondes, c'est tout. On joue le jeu, on ne se regarde pas trop, OK? On sait que c'est ridicule, c'est correct, on le fait quand même. On fait dedans, tout le monde. OK, sourire extrême, on l'essaie. Parce que ce qui va se passer, c'est que votre cerveau... Ah, toi aussi, il faut que tu le fasses, Luc. Votre cerveau... Ah oui, puis tout le monde rit de toi en plus. Cerveau se dit, tiens, si j'envoyais de la sérotonine, je produis de la sérotonine, c'est un genre de drogue gratis, légale également. Vous devenez votre propre pusher, OK? Là, vous regardez votre voisin, votre cerveau se dit, coudon, j'ai-tu de l'air aussi fou que ça, moi aussi? Et voilà, 20 secondes, 25 secondes, on l'a fait, on peut relâcher. C'est quoi le phénomène que vous sentez? Pour ceux qui l'ont fait pour vrai, là, on a encore le goût de sourire. On vient de changer l'énergie qu'on ressent, donc l'énergie qu'on dégage. Écoute, il y a des gens qui travaillent dans le public, puis des fois, je comprends pas pourquoi ils travaillent dans le public. La serveuse ici, je suis sûr qu'elle fait l'exercice à chaque jour. Elle le savait, puis elle nous l'a pas dit, parce qu'elle est souriante et agréable. Avez-vous remarqué, des fois, on se fait servir par des gens qui ont tellement l'air d'avoir des problèmes, puis ils nous offrent de partager leurs problèmes, comme ça, l'espace d'un instant, tu sais, avec le court contact qu'on a. C'est des choses simples qui peuvent améliorer notre quotidien, puis qu'on peut appliquer à tous les jours.
Pour les réseaux sociaux, tu proposes aux gens de devenir leur propre directeur de marketing. En fait, on devient le produit vendu par ce directeur-là, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on partage, à comment on réagit, à quel moment on réagit, parce que ça reste.
Bien, faire attention à ce qu'on dit, faut faire attention quand on dit faire attention à ce qu'on dit.
Oui, oui.
Parce que je veux pas être moralisateur, je veux pas dire aux gens quoi dire, je veux pas dire quel ton il doit avoir sur les réseaux sociaux, pas du tout. Ça regarde chaque personne, puis à la limite, je te dirais, c'est pas de mes affaires. Ce que je dis, par contre, c'est qu'on devrait être conscient que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de public. Donc, vu que c'est notre image publique qui est en jeu, tu fais appel à ton directeur de marketing et tu décides consciemment ce que tu vas publier. Parce que le maudit problème, Luc, as-tu remarqué, particulièrement le soir, tu sais, passer 10 heures le soir, ce que j'appelle l'heure de la gaffe. Tu sais, quand tu as pris le petit verre de vin, le petit, tu sais, puis le deuxième, puis là, tu viens de finir le troisième, puis là, tu t'installes sur ton ordinateur, ton cellulaire, ta tablette. Écoutez, c'est tellement le fun de lire ce que les gens publient à ce moment-là, là, parce que souvent, ils s'en rendent pas compte. Alors, tout ce que je dis, c'est pourquoi ne pas s'en rendre compte? Tu fais appel à ton directeur de marketing, c'est-à-dire toi-même, pour te poser des petites questions, puis te dire, ben avant de peser sur le fameux piton publié, là, le fameux « scène », tu sais, ça part, oups, trop tard, as-tu déjà essayé de ramener quelque chose que tu avais publié puis que tu voulais plus? C'est difficile. Tu peux toujours effacer une publication, mais un courriel, tu peux pas. Ça reste là, puis ça peut être retweeté, puis republié
d'ailleurs, t'as mis des
ailleurs
exemples.
Sur Facebook. On a plein d'exemples.
Tu as mis, entre autres, un exemple d'une fille qui avait à peu près pas de monde qui la suivait sur Twitter, mais son tweet s'est retrouvé même jusqu'au président des États-Unis.
Écoute, 170 abonnés Twitter. La fille s'appelle Justine Sacco, vice-présidente aux communications d'une grosse firme de communication qui s'en allait en vacances en Afrique du Sud, à partir de New York, escale à Londres, elle commence à écrire un tweet. Écoutez, c'est épouvantable ce qu'elle a écrit. Je m'en vais en Afrique du Sud, j'espère que je n'attraperai pas le sida, mais il n'y a pas de danger, je suis blanche, OK? Épouvantable. Elle publie ça. Et là, ben c'est la folie. Elle a beau avoir juste 170 abonnés Twitter, ben ça c'est retweeté des milliers de fois. Et on a même, puis on le montre en conférence aussi, on a même un tweet de Donald Trump qui, à l'époque, suivait, puis il dit « Justine, she should be fired », tu sais. C'est quand même un peu une habitude qu'il a, tu sais. Il écrit. Parce que tu te sens, faut pas le prendre personnel quand il écrit pas ça à la fin d'un tweet. Ça arrive des fois. C'est sûr que...
C'est rare.
C'est rare, tu sais. Mais même lui s'en est mêlé. Il y a eu un mouvement, puis après coup, on a appris, parce qu'il y a eu un livre publié là-dessus, puis elle a fait une entrevue, parce qu'elle était... elle a perdu sa job, elle a perdu ses amis, elle avait de la misère à trouver un autre emploi. Elle essayait de faire une blague de l'ironie du deuxième degré. Ce que je dis dans le livre, c'est que le deuxième degré sur les réseaux sociaux ne marche pas tellement, parce qu'imaginez, le premier degré marche rarement sur les réseaux sociaux en humour. Imaginez le deuxième, tu sais. Elle est allée un peu loin, et puis malheureusement, elle a payé pour quelque chose qui se voulait humoristique, mais qui a été très mal interprété. C'était maladroit.
Dans le livre, tu racontes le 13 avril 91, RBO est en tournée depuis un bout. Tu le dis après, les gars commençaient à un peu se taper ses nerfs. Et arrive un accident de la route. Et ça change tout. Après.
Ben, premièrement, ce qui change tout, puis ça, c'est une date, tu vois, je me rappelais pas de la date par cœur. Je l'avais écrit dans le livre. 13 avril 91. Il y a beaucoup de gens, quand je vais conter cette histoire-là, qui me disent « Comment ça fait que j'ai jamais entendu parler de ça, votre gros accident d'auto? »
Parce que ça a été dans les journaux, tu as même une capture.
Ça a été dans les journaux. Il y a des gens, il y a un photographe qui est venu photographier la camionnette qui était vraiment perte totale. On a fait à peu près 4 tonneaux. 7 personnes à l'intérieur du véhicule. Et puis le miracle, c'est qu'il y a un des passagers qui a eu un petit peu la face égratignée. Sinon, le seul problème qu'on a eu, c'est quand on s'est détaché, en tout cas moi, parce qu'on s'est immobilisé à l'envers. Puis moi, le miracle, on demande à tout le monde s'ils sont corrects. Tout le monde est correct. Je me détache, bang! J'avais oublié, tu sais, j'étais tellement sur l'adrénaline. Puis là, je me suis fait mal au cou. Tu sais, faut-tu être imbécile. Mais on s'est retrouvés à ce moment-là, après cet accident-là. ça nous a beaucoup rapprochés. Parce qu'on était à un moment, fin de tournée de spectacle. Tu sais, quand tu passes 24 heures par jour ensemble, puis on le vit tous quand on a des moments intenses avec les mêmes personnes. Souvent, les défauts des gens nous énervent, puis nous tombent sur les nerfs. Puis c'est drôle, mais après cet événement-là, c'est comme si les défauts devenaient moins importants. Puis on a plus réalisé les qualités des gens qu'il y avait autour de nous. Puis c'est un exercice que je demande à faire aux gens quand je le fais en conférence, puis dans le livre aussi, dans les 10 commandements, là, c'en est un, c'est de prendre la personne à côté d'eux, puis penser à leur principale qualité, à sa principale qualité. C'est quoi? Mettons, vous deux, là, vous pensez à un mot, la principale qualité de la personne qui est avec vous. Parce que si on faisait, gardez ce mot-là pour vous, si on faisait l'exercice là, avec des défauts, là, ça serait beaucoup plus le fun. Tout le monde. Là, tu dirais, ah, c'est bien le fun, ce livre-là ou cette conférence-là. Ah oui, c'est le fun, lequel choisir? Puis c'est drôle parce que quand je demande aux gens de trouver une qualité, c'est, ouf, je sens le sérieux, la petite goutte de sueur qui coule au bord du front. Les gens se concentrent. Puis ils se disent, OK, c'est pas évident de trouver...
Et le malaise, après?
Trouver ce mot-là, bien, le malaise, ils n'en ont pas trouvé. En avez-vous trouvé une? Avez-vous un mot, une qualité de la personne avec vous? Avez-vous trouvé sa qualité? Ça te dérange pas, je vais aller voir les gens. On va briser le mur.
On est en conférence.
On va briser le mur. Comment vous appelez? Non, vous n'avez pas de nom? Comment vous appelez?
Gisèle,
comment s'appelle-t-il? Je savais qu'on le saurait. Gisèle, Laurent, qui est tout modeste, qui est tout gentil, c'est quoi sa principale qualité? Vous avez pensé à quel mot?
Patient.
Oh, un patient! Mais ça, c'est un défaut pour vous, ça, finalement, de dire qu'il est patient. Laurent, est-ce que vous me permettez de vous demander la principale qualité de Gisèle, c'est pour elle? Un mot, sa qualité principale?
Gentil.
Elle est gentille. Patient et gentil, tu sais. On peut dire que dans la vie, il y a des gens bien assortis. Bravo. C'est beau, tu sais. Puis, c'est bien plus drôle. Si j'avais voulu faire rire les gens, j'aurais demandé c'est quoi le défaut de Laurent, puis c'est quoi le défaut de Gisèle. Puis là, tout le monde aurait eu bien du fun. Mais c'est tellement plus valorisant, tellement plus enrichissant d'aller chercher le meilleur des autres autour de nous.
Est-ce qu'après ton passage en conférence dans les entreprises où tu demandes ça aux gens, est-ce que tu as des retours des entreprises ensuite qui disent que le climat a changé ou en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé?
Le climat de travail par la suite, je suis plus là à ce moment-là.
Non, mais on peut t'écrire pour te le dire.
Oui, mais au moment où je suis là, oui, j'ai eu des commentaires. J'ai eu deux personnes qui travaillaient ensemble. Et puis, une des deux personnes, tu sais, les gens se parlent rarement. Puis justement, on se dit pas nos... On n'a pas l'habitude de se dire nos qualités puis nos compliments, des choses qu'on fait bien. C'était dans un bureau syndical. Puis c'est la deux personnes de la direction du syndicat. Puis il y en a une des deux. Tu sais, puis t'es tout le temps dans les griefs, puis les problèmes, puis les
conventions. La confrontation.
Tu sais, convention collective, c'est des jobs où il y a beaucoup de pression. Et la personne était là depuis 6 mois à travailler avec sa collègue. C'était deux femmes qui travaillaient ensemble. Quand elle s'est levée, elle a dit à la personne, le principal compliment, c'est professionnel. Tu sais, dans le sens de compétente, là. La femme pensait tellement que l'autre n'appréciait pas son travail qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré. On n'est tellement pas habitué à se donner nos compliments, nos qualités. Puis moi, je le dis... Faites ça chez vous. Puis il y a un c'est vrai que tu sais, tu parlais de malaise tantôt. Souvent, il y a un malaise. On a une pudeur à dire des choses. Alors que quand il s'agit d'insulter les gens, maudit qu'on est bon. Moi, le premier, là, je suis très compétent pour trouver les défauts des gens. C'est incroyable. J'essaie de développer une compétence, par contre, pour aller chercher. Puis autant dans nos relations personnelles, autant dans nos relations professionnelles, aller chercher le meilleur chez les autres, c'est ça qui nous permet d'avancer.
Il y a un moment dans le livre, d'ailleurs, où tu parles des défauts de tes trois comparses de RBO, mais tu y vas d'une analyse avec un recul, où ça devient des forces, ce que toi, tu voyais comme des défauts.
Même
c'était
oui.
C'était des forces au final.
Quand tu perçois les défauts de quelqu'un, tu dis, hey, lui, il est arrogant, mettons. Je ne veux pas nommer de nom, surtout que Guillaume va être au courant que j'ai parlé de lui. Mettons, tu dis, ah, lui, il est arrogant. Tu sais, beaucoup, il a trop confiance en lui. Saviez-vous que quand on commençait comme petit cul, là, dans Rocket Belles Oreilles, sa confiance, son arrogance, là, elle se transformait aussi en confiance envers nous. Il nous défendait, puis on fonçait, puis il était fonceur. Puis il n'avait pas peur d'aller voir les gens, il n'avait pas peur de dire qu'on était bon, alors que personne d'autre aurait osé le faire. Fait que ce que je percevais comme un défaut, c'est avéré être une qualité, en fait. T'sais? Puis je pense que pour lui-même, quand on le connaît, c'est un gars très humain, là. Il a une image arrogante. C'est un gars qui fait vraiment attention aux gens autour de lui. Sachez-le, parce que des fois, les gens se fient beaucoup sur l'image publique qu'on a des gens pour juger de la personne. Puis il y a l'inverse aussi. Il y a des gens qui ont l'air très sympathiques puis qui sont des... Non, j'arrête là. Bon, on va me demander des noms. On veut des noms. J'en ai pas.
Or donc, tu me disais que RBO a déjà travaillé avec André Lachapelle qui nous a quittés hier.
Oui, la grande dame. On avait fait, dans la toute première saison d'RBO, une parodie de John Labatt classique. Okay. Elle était porte-parole d'une bière qui... John Labatt classique essayait d'avoir l'idée de la classe. Puis quand on parle de classe, on parle d'André Lachapelle, la grande comédienne. Une gentillesse hallucinante. On faisait un sketch qui s'appelait « Ce cher Guy ». C'était la parodie d'un sitcom américain. Puis « Ce cher Guy ». Puis c'était, tu sais, la mode des sitcoms où t'as une vedette, puis t'as des gens qui apparaissent. Puis là, tout d'un coup, on avait une idée. On dit « ça serait le fun qu'André Lachapelle arrive, mais elle n'a pas le temps de parler, y a-tu? » Fait que quelqu'un dit « On pourrait y demander. » Puis là, quelqu'un répond « Ben non, voyons donc, elle n'acceptera jamais. » Ben, croyez-le ou non, on lui a demandé, elle a accepté. Tu sais, cette personne-là avait, même si elle avait des allures distinguées et de la haute, c'était une personne qui avait un sens de l'humour incroyable. Tous ceux qui ont pu travailler avec l'ont réalisé. Puis on a eu une journée de tournage et puis on a pu côtoyer la grande André Lachapelle, qui a accepté de faire un sketch où elle disait pas un mot. Elle faisait juste « Ah! » Puis elle tombait raide mort. Puis elle a accepté. Ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre son décès.
Cette année, ça fait 40 ans que tu as rencontré Guilla. C'était en 79.
Oui.
le début, donc, de ce projet-là qui allait devenir RBO. Mais à l'époque, c'était une émission de radio, si je me souviens bien.
Oui.
À l'université.
À CIBL, ouais. Radio communautaire.
Est-ce que vous attendiez à ce que ça devienne ça, RBO?
Jamais de la vie. C'était un trip de jeunes étudiants. Je peux pas parler pour les autres, là. Moi, je trouvais que on était un petit peu trop vulgaire et premier degré, et on faisait un peu trop ce qu'on voulait pour avoir du succès. C'était l'impression que j'avais. Nous autres, si on a une blague qui est pas politically correct, on va la faire. Dans mon esprit, c'était au détriment de devenir grand public, parce que ça c'est pas tout le monde qui appréciait ce genre d'humour-là. Quand on a commencé à faire de la radio à C'est quoi ensuite? On est allé en France, on a gagné un prix là-bas de radio. On est revenu, on a un article dans la presse, et puis on a un contrat à C'est quoi? Bien, on dit, on va continuer à faire ce qu'on faisait. Là, il y a un peu plus de diffusion, puis là, on a un contrat à TQS pour la télé. Bon, on va continuer à faire les blagues qu'on faisait. Par contre, tu sais, ça a pris 5 ans avant que les gens nous connaissent. 5 ans où on a fait... On a une tournée qu'on avait appelée la tournée mondiale des cégeps. On s'entend que les cégeps, c'est au Québec.
Oui, c'est pas mal concentré ici.
C'est ça, j'aimais beaucoup le titre, la tournée mondiale des cégeps. On voyait grand déjà. C'était tout à fait amateur. On a appris notre métier sur le tas. Sauf qu'après 5 ans, on avait écrit tellement de textes, fait tellement de concepts que quand ça s'est mis à marcher, là, j'étais content. Là, je me disais, OK, là, c'est bon, qu'on va avoir notre public, on va réussir à peut-être en vivre. Puis finalement, ça s'est poursuivi. Puis les gens, je pense, ont compris que même quand on faisait une blague méchante, les gars qui faisaient la blague n'étaient pas méchants. OK, ils ont fini par comprendre ça. Mais pour beaucoup de gens au début, c'était pas évident.
Dans le livre, tu mentionnes que Sonia Benezra vous a pardonné. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous ont pardonné?
M'a pardonné, oui. En fait, Sonia, je l'ai imité. Puis
ouais, c'est toi qui l'imitais.
Oui, c'est moi qui l'imitais. Puis, tu sais, moi, quand j'imite une fille, même si je voulais faire un hommage, regarde-moi l'air, tu sais. C'est impossible. Sonia, à un certain moment, tu sais, je l'ai croisée souvent. Elle était à Musique Plus. On allait souvent à Musique Plus parce qu'on faisait des disques, des vidéoclips. On a fait un show à Musique Plus. On a fait le show de l'ouverture de Musique Plus. Sonia, je la croisais tout le temps. Puis quand elle a vu le sketch, elle n'a pas vraiment aimé ça. Puis je la comprends, je respecte entièrement ça. Mais elle venait toujours me voir pour me dire qu'elle m'avait pardonné. Mais à chaque fois qu'elle me parlait, tu sais, elle me pognait l'avant-bras, là. Elle serrait, là, puis là, ma main devenait blanche, puis elle disait, mais je te jure, Bruno, j'ai trouvé ça très drôle, je t'ai vraiment pardonné, j'ai vraiment aimé. Puis là, j'étais là, OK, quand est-ce qu'elle me lâche le bras? Faut-tu que j'y dise avant que je m'évanouisse? Fait que non, ça a toujours été très, très gentil. Puis elle a fait plein de talk shows après, on est allé. Écoute, on a dû se croiser une centaine de fois. Fait que, tu sais, le Québec, c'est petit. Tu ris de quelqu'un, tu le vois après. C'est pour ça que je te dis que les gens comprenaient que des fois, on faisait des blagues pas très gentilles sur les gens. Puis, tu sais, t'as des situations bizarres. J'ai imité Paul Piché à un certain moment, c'était la voix d'André, mais tu sais, c'était pas vraiment gentil. Puis, tu vois Paul ensuite, puis il rit de même, tu sais. Tu sais, ah, Bruno! Puis là, il arrête de rire. Il dit, ben oui, je t'en veux pas, je t'aime bien, j'écoute ta musique, je vais voir tes shows. Il faut faire distinction entre la blague que tu trouves sur quelqu'un et ce que tu penses vraiment de la personne. D'ailleurs, c'est beaucoup plus dur de rire de quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, puis ça, tout le monde le vit. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu fais une blague sur la personne, souvent, tu vas vouloir montrer pour quelle raison tu n'aimes pas la personne. Pis c'est un chanteur, un
ça
politicien,
a l'air d'un
chanteur.
Ça paraît tout de suite que c'est un règlement de compte.
Exactement. Ça a l'air d'un règlement de compte. Dans les milieux de travail, dans nos relations avec les gens aussi, c'est la même chose. On va rire de quelqu'un. Puis, j'en parle dans le livre, oui. une façon de savoir si l'humour va trop loin ou est acceptable, c'est l'intention qui sous-tend la blague. Quand l'intention, c'est de démolir ou de faire un règlement de compte, ben là, on n'est peut-être plus dans le domaine de l'humour. Ouais. Fait qu'on faisait bien attention, même si on n'y parvenait pas à 100% tout le temps, dans le temps de RBO, pour faire des blagues sur des gens, c'était souvent méchant, mais l'intention, c'était pas de démolir la personne. C'est-à-dire d'un aspect, un peu comme un caricaturiste. As-tu déjà vu quelqu'un qui a un plus petit nez que dans la réalité? Ils ont tous des gros nez, t'sais. Puis ils ont tous des têtes avec des formes bizarres. Ça veut pas dire qu'ils pensent que c'est un hydrocéphale s'ils le dessinent, t'sais.
Effectivement.
Une chance, j'espère.
RBO s'est arrêté en 95.
Ouais.
Vous êtes revenu ensuite, vous avez fait le Centre Bell il y a quelques temps avec une tournée de show. Il y a eu le Centre Vidéotron. Il y a eu la Place des Festivals d'abord avec un full band. Ça, de Centre Bell, Centre Vidéotron.
Hey, 100 000
c'était
personnes
comment,
à la Place
ça,
des
pour
Festivals.
Ça, ce c'était... retour sur scène et de voir autant de gens qui revenaient après toutes ces années.
Le monde, ça, c'était vraiment inespéré. Mais le fun qu'on a, on n'a jamais, tu sais, on est à 5, 6 avec le gérant. On avait une équipe technique à chaque fois qu'on faisait de la tournée, fait qu'on avait des bandes sonores. Puis on aime la musique. On n'a jamais pu faire un vrai show au complet
avec un band.
On a eu la chance de faire deux fois des shows avec des orchestres symphoniques, l'orchestre symphonique de Métropolitain puis l'orchestre symphonique de Trois-Rivières. Deux fois, on a fait des extraits des 7 ou 10 minutes.
Vous avez fait la fête d'audiogramme aussi, si je me souviens
oui,
bien.
Oui, exactement. Tu sais, accompagné de musiciens, c'était extraordinaire. Mais là, on a eu la chance de faire un show complet avec un band live. Et ça, on n'avait jamais pu se le permettre. Fait que, on s'est fait plaisir. Puis le fun qu'on a eu, la surprise qu'on a eu, c'est qu'on a fait plaisir à bien du monde aussi, parce qu'on a répété le show en après-midi, puis il y avait quelques personnes, tu sais. Puis là, le soir arrive, puis avant de monter sur scène à la Place des Festivals, on était au complexe des Jardins. Fait que là, on voyait le monde arriver. On descend, on s'en va se faire maquiller, puis ensuite on s'en va backstage, puis là, il y a le directeur de production qui vient me voir, il dit « Bruno, viens ici, faut que tu vois ça ». Là, il m'amène, je sais quoi? Il m'amène à l'avant-scène sur le côté. Il ouvre le rideau. Il dit, j'aime mieux que tu vois ça avant que tu rentres sur scène. Là, il ouvre le rideau. Puis là, je vois la mer de monde à ne plus finir. Puis il dit ça, là, t'as du monde qui s'en va jusqu'à la rue Sherbrooke en bas, là. On est au coin de Maisonneuve. Ouais. Jusqu'à la rue Sherbrooke en haut, là. Mais les rues transversales, il y a des écrans géants, sont pleines aussi. OK. Beaucoup. Pouh, merci de me l'avoir dit, parce que finalement, tu chantes, t'arrives là. Ah! J'aurais parti la note un peu haut, peut-être. Non, c'était impressionnant.
Après toutes ces années, les gens se souviennent encore des personnages de RBO, Ringo, Rinfrey, je parle des tiens, mais le
merci
chef
beaucoup,
Gros
merci, Lo, merci, merci.
Le oui. chef Gros
Le chef Gros on m'a demandé d'ailleurs s'il venait vous préparer à manger. Et si vous insistez tantôt, je vais peut-être vous faire un petit dessert. La réponse est non.
Un crestillon bien dégorgé.
Bien dégorgé, c'est important.
Il y a eu évidemment les policiers. Il y a eu,
ouais,
il y
le sergent Bigras, le lieutenant Bouliane.
Ça fait quoi de
les slow-mo.
Oui.
Hein? La fait... famille d'autrefois dont tu me parlais oui, tantôt. Là,
qui est un
le
classique.
Chien, l'orion, ben probablement oui. mangé. C'est André qui faisait ça.
Ça te fait quoi voir qu'après toutes ces années, il y a, d'un, la génération qui a grandi avec RBO qui s'en souvient, mais il y a aussi une génération qui n'a pas connu RBO qui découvre ces
ben, avec YouTube,
avec
je veux dire, il y a
maintenant.
Beaucoup de gens qui connaissent vraiment ça, puis qui n'étaient même pas nés quand on s'est séparés. Là. 95, mon fils est né en 97, toute la génération des 20, 22, 24, là, il n'était pas né au moment où on a mis fin à nos activités. Il y a eu les bye-bye où il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont vu nos bye-bye 2006-2007. On a fait une partie en 2009 aussi, on a fait un numéro l'an passé. Moi, je suis scripteur sur les bye-bye cette année et l'an passé sur l'ensemble de la production. D'ailleurs, on achève les derniers textes, là. Je m'en vais écrire des petites choses après, quand je vous laisse, pour les derniers tournages qui sont en train d'être complétés. Je pense que la moitié des tournages de l'émission de cette année est faite.
Sont faits.
Alors, si c'est plate, dites-vous une chose, c'est entièrement de ma faute. Si c'est bon, c'est grâce à moi.
Bruno, on va aller écouter.
Que, pour répondre à ta question,
oui, vas-y.
Ça fait vraiment plaisir, mais ce qui me fait le plus rire, c'est que des fois, il y a des gens qui viennent en me disant une réplique. Puis je veux juste vous dire, je passe pas mon temps à regarder les sketchs qu'on a fait il y a 20 ans.
Tu t'en souviens pas
nécessairement. Je m'en rappelle pas. Fait qu'il arrive, il dit, « Hey, n'importe quelle réplique que les gens te disent. » Il dit, « Oui, tu me dis ça pourquoi? » Je devine que c'est parce que c'est un sketch de RBO dont ils se rappellent, qu'ils ont vu récemment, mais moi, je ne l'ai pas vu récemment.
Bruno, tu l'as dit, tu travailles sur le bye-bye. À quel moment vous avez commencé à écrire? Parce que j'imagine que tout ce qui se passe dans la première moitié de l'année, ça se scrappe à un moment donné parce qu'on ne s'en souvient pas.
Ben, on a commencé à la mi-août. Fait que là, on s'est assis et on dit, bon, ben, on va attendre que les choses arrivent pour pouvoir écrire dessus.
Oui.
Non, il y a quand même des choses. Tu sais que les élections s'en viennent.
Ouais.
Tu sais qu'il va y avoir des événements, certains événements que tu peux prédire jusqu'à un certain point.
Ou des événements que tu sais qui vont perdurer à la fin de l'année. Je
ça, c'est ce que tu souhaites.
Desjardins, par exemple.
Bon,
on est encore
hasard,
là, on en parle encore 12 mois plus tard.
C'est possible. Je pense qu'il veut vraiment me faire cracher le morceau. Là. Il est très habile, le gars, très habile. Comme tu allais dire, oui, justement, on a... Oh non, fallait pas...
Et c'est tel comédien.
Ah, maudit. Non, mais je vais te donner un autre exemple. Il y avait eu la grosse affaire au mois d'août, là, où une des grosses affaires, c'était Boeing. Boeing 747 MAX. Il y avait eu deux écrasements. C'était la grosse actualité. C'est fou, hein, mais 6 mois plus tard, là, tu te retrouves fin novembre. Est-ce que le sujet est aussi dans l'actualité puis important? Pour ceux qui suivent l'actualité quotidiennement, oui. Mais pour la plupart des gens, tu vois, ça, c'est un bon exemple. Tu es vraiment dedans, là. Un autre exemple. Au mois d'août, tu viens de... C'est un mois et demi avant, c'était la Coupe Stanley. OK, là, je demande au mois de novembre, même pour ceux qui suivent le hockey, c'était qui les deux équipes en finale? C'est Saint-Louis qui a gagné contre Boston. Qui c'est qui s'en rappelle? Donc, qui se rappelle de l'état des forces du Canadien? Si tu veux faire un sketch sur le Canadien puis tu écris au mois d'août, tu vas parler du Canadien du mois de mai qui a été éliminé, mais c'est plus la même équipe. C'est plus la même équipe. Puis là, il suffit de deux blessés puis c'est plus la même équipe non plus. Ça va vite. Ça va vraiment vite. Les nouvelles, maintenant, ça part, ça vient. Alors, il faut écrire des choses de façon un peu plus intemporelle. Comment tu fais ça? Je ne le sais pas moi non plus.
Est-ce que tu lis les critiques après le bye-bye?
Ben, en fait, les critiques, je pense que le bye-bye s'est rendu un événement tellement... Les gens qui aiment, qui ont même pas envie de rire, le regardent. Si t'as pas envie de rire puis tu regardes ce show, tu sais, si tu parles de 4 millions de personnes qui regardent, là, ça veut dire qu'il y a bien du monde qui sont à des soupers puis qui se font imposer le show quand ça leur tente pas de le regarder. Puis, ou à des parties où les gens arrêtent. Écoute, y a-tu quelque chose de pire qu'arrêter un party pour regarder une blague? Arrêtez, arrêtez, je vais faire une blague! Tout le monde a du fun, t'es là, c'est mieux d'être bon. Tu sais, c'est une pression. Tu peux jamais atteindre le degré de qualité auquel les gens s'attendent. Fait que tu fais ton possible. Il y a 30 sketchs d'un bye-bye. T'espères que les gens vont en aimer la moitié. Puis c'est déjà beau. Mais s'ils aiment la moitié des sketchs, ils n'aiment pas la moitié des autres parce que c'est des sketchs avec des degrés d'humour différents. Le verre va-tu être à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce qu'ils vont dire « le show, c'était incroyable, j'ai aimé ça, 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 ça » ou ils vont dire « le show était plate, j'ai haï ça, 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 ça ». Les deux ont raison. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu retiens du show? Fait que moi, je dis aux gens, les critiques, à un certain moment, là, on en prend, on en laisse. C'est un feeling général. Est-ce que les gens ont aimé ça en gros? Puis le reste, ben, on essaie de faire mieux la prochaine fois.
Pour toi, les prochains mois, c'est des conférences?
Oui.
De plus en plus, tu en as beaucoup cette année, tu le disais.
C'est une année de fou avec le livre aussi que j'ai sorti.
Est-ce que ça te surprend, tout ça? Ben parce oui. qu'on disait tout à l'heure par accident, ben mais de oui. savoir qu'on t'appelle autant, parce qu'il y en a beaucoup de conférenciers, donc l'offre est grande.
Oui,
les entreprises ont le
fait.
Choix.
Tout à fait.
Qu'on mais, décide de prendre toi.
Mais la conférence, elle marche bien du côté bouche à oreille. C'est rassembleur, les gens rient. Il y a un message important qu'ils retiennent après. Ils comprennent l'idée des 10 commandements une fois qu'ils ont vu la conférence. Fait que le bouche-à-oreille a fait le travail dans mon cas parce que c'est en milieu corporatif qu'on le fait. Ben, d'où l'idée de sortir un livre pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qu'on a, du message qu'on a apporté partout au Québec depuis 2 ans.
Pourrais-tu le faire en public éventuellement, cette conférence-là? Aimerais-tu ça?
On en parle. Ce serait... oui. Ça, c'est quelque chose qu'on envisage parce qu'il y a une certaine demande pour des gens qui veulent l'avoir à l'extérieur du contexte d'une entreprise ou d'un groupe ou d'un syndicat, d'un groupe de bénévoles, de peu importe.
Souhaitais-tu faire de la scène en solo quand RBO s'est séparé? Est-ce que tu y avais pensé?
Toujours. J'ai toujours aimé la scène. Pour moi, c'est le contact avec les gens, contact avec le public. Tous les comédiens, tous les humoristes que tu vas rencontrer, ils vont te dire que la scène, c'est leur drogue. C'est le moment où tu t'exprimes, où tu as le feedback immédiat. Ça battra jamais la télé. Tous les humoristes qui font de la télé, après, vous remarquerez, ils retournent faire de la scène pour être en contact avec le public. La radio, c'est quelque chose de plus proche des gens, plus interactif. C'est un entre-deux, mais il n'y a rien pour à côté la scène.
Est-ce que tu pourrais en écrire d'autres, des livres, éventuellement? Est-ce que tu as pris goût à ça?
Peux-tu commencer par vendre celui-là?
Je comprends. Tu es pressé, mais aimerais-tu en faire d'autres? Ben, as-tu aimé si assez ça?
Je vais travailler 2 ans sur celui-là. Si tu m'aides pour le prochain, là, je dis pas non. Non, mais éventuellement, j'ai des idées pour une deuxième conférence. Alors, il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas le livre lié à la deuxième conférence aussi, pour l'instant. Sinon, ben non.
OK. Bruno, j'invite les gens à se procurer les 10 commandements de Bruno Landry. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci, Luc. Merci pour l'invitation. Super, merci tout le monde. Vous avez été extraordinaire. Quelle belle écoute dans un restaurant. La bouffe était bonne, l'entrevue était bonne, la vie est belle.
Merci.